Il y a énormément d'actions, et notamment les actions financées par le département. Et d'ailleurs, on est là sur une action clé en main, donc proposée par le département. Mais ce n'est qu'une action au milieu d'une multitude. Madame Delmoline, d'ailleurs, qui connaît bien l'établissement, pourrait largement vous en parler. Voilà.
Alors, on en parlera un petit peu après. Juste en quelques mots, Madame Morales, vous venez d'arriver.
Tout à fait.
Donc, c'est une première rentrée pour vous en tant que principale au Collège Gérard Gault. Rentrée pas facile, hein, que ce soit dans les établissements scolaires ou partout ailleurs, on a toutes et tous nos soucis, on va dire, et nos adaptations nécessaires. Qu'est-ce que ça a de particulier quand on arrive déjà dans un établissement et en plus où il faut mettre en place des conventions un petit peu particulières?
Alors c'est vrai que c'est compliqué, quand on arrive, il faut découvrir la façon de faire des uns et des autres, découvrir les personnels, découvrir les élèves, découvrir les familles, et c'est vrai que c'est quand même très particulier de travailler tous masqués. Voilà. Alors le côté, je dirais, positif, c'est que je trouve quand même que nos jeunes se sont adaptés assez facilement et on ne peut pas dire qu'on ait vraiment des problèmes pour le port du masque. C'est à la marge. Après, c'est vrai que la salle des profs, je rencontre des enseignants. C'est, retenir déjà le nom des enseignants, c'est compliqué quand on arrive dans un établissement, mais masqué, je dois dire que ça me demande un effort supplémentaire. Voilà. Donc, ça complique un peu la vie. Mais bon, j'ai la chance d'être bien secondée, d'être bien aidée par une équipe qui, de temps en temps, me dit « c'est Madame un tel ». Et c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, le port du masque n'est pas simple.
Ne simplifie pas la vie. Entre une principale et une principale adjointe, quelle est la répartition des rôles?
Alors, la répartition des rôles, on est tous les deux chefs d'établissement. C'est vrai que ça dépend des équipes. Voilà, on a pratiquement le même rôle. C'est vrai que Madame Delmoline est beaucoup dans l'organisation aussi. Voilà, c'est elle quand même qui fait le gros du travail sur tout ce qui est les emplois du temps, la mise en place de toutes ces actions. Mmh. Voilà, je dirais que le chef d'établissement, il a peut-être plus de rôle sur l'extérieur, voilà, mais quoique ça dépend, on se partage de façon, je pense, à peu près équitable les tâches. Voilà. Alors, on a une responsabilité. Voilà. Oui, je dirais que la grosse différence, c'est sur la responsabilité, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose dans l'établissement, la personne responsable, c'est le chef d'établissement. Mais après, dans la vie de tous les jours, je dirais que on est pareil.
Alors, Madame Delmoline, on a eu le plaisir déjà de vous accueillir. Justement, là, en l'occurrence, pour les collégiens mettre la main à la pâte, c'est donc une opération qui est financée, qui est proposée par le conseil départemental. Comment ça se passe de mettre en place ce genre de choses et d'accueillir cette...
Là, ça a été essentiellement donc une enseignante de SECPA, Madame Combe-Dimanche, et avec la directrice de SECPA, Madame Benchine, qui ont surtout regardé à l'organisation de cette journée. Et moi, j'étais là pour voir si dans le semainier, ça rentrait bien et qu'on n'ait pas d'interférence entre différentes actions. C'était très simple, on est toujours partant, donc dès qu'il y a une grande action, surtout pour favoriser l'autonomie et l'engagement des élèves, on dégage tout ce qui peut être secondaire. Donc, Madame Combe-Dimanche s'était inscrite sur les projets clés en main. Ça a été retenu et on a dit, OK, on le fait tout de suite en début d'année.
Oui, c'est vraiment le souhait que ce soit les SECPA qui participent à cette opération. C'est vraiment venu de l'enseignante.
C'est Madame Combe-Dimanche, enseignante en SECPA, qui a lancé le projet, qui a fait cette démarche et qui a postulé pour ce projet.
Donc on l'accueillera tout à l'heure de toute façon. Alors Delphine, cette opération, donc les collégiens mettent la main à la pâte. Alors, la main à la pâte, on a tous Georges Charpak un petit peu quelque part dans le coin de la tête. Et la fondation La Main à la Pâte, elle est soutenue, elle fait partie intégrante donc de l'action éducative du département de la Drôme. Elle se retrouve sur l'ensemble du département, sur plusieurs collèges ou c'est uniquement chez nous qu'on en bénéficie.
Alors, les collégiens mettent la main à la pâte, c'est une opération qui est propre à la Drôme pour la fête de la science depuis 2018, qui a été mise en place par la direction culture et culture scientifique de l'université Grenoble-Alpes avec le soutien du département de la Drôme et donc depuis l'année dernière coordonnée donc par les Clévaux qui sont coordinateurs de la fête de la science en Drôme que je représente donc aujourd'hui. Voilà, mais bien sûr, la main à la pâte, la Fondation Main à la Pâte, qui est un organisme à une maison qui s'appelle Maison pour la Science, qui a ouvert à Grenoble, je crois, en 2016 ou 2017, qui est rattachée à cette direction de la culture et culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes et qui intervient dans les formations aux enseignants pour soutenir l'éducation scientifique et notamment accompagner ce qu'on appelle, enfin, travailler sur ce qu'on appelle la démarche d'investigation. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment dans la salle de travaux pratiques avec les élèves de SECPA du Collège Gérard Gault. C'est-à-dire qu'ils sont en atelier pratique. Ils observent, ils cherchent, ils apprennent à reconnaître. Donc, après, je veux autour de la menthe poivrée, mais j'en dirai pas plus. Parce qu'on peut dire c'est qu'ils sont dans la peau d'un pharmacien et que cette intervention est donnée effectivement par un chercheur, professeur, chercheur, docteur en pharmacie de l'Université Grenoble-Alpes qui vous en dira plus sur son parcours et les connaissances qu'il transmet aux élèves aujourd'hui. Et pour revenir sur l'opération globale des collégiens mettent la main à la pâte, donc ça a démarré en 2018. Comme je le disais, par la Maison pour la Science et l'Université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, donc, on est en 2020, c'est la troisième édition, et on est passé de 3 projets en 2018 à 5 en 2019, et cette année, on en a 9 qui ont été acceptés.
Super.
Donc, en ce moment même, aujourd'hui, tout de suite après, je vais vous quitter, je vais à Montélimar, où intervient ODF Tricastin sur le mix énergétique. En ce moment, d'autres élèves à Romans sont en train de travailler sur le métier d'ingénieur acoustique et sur la technologie au service de l'écologie. Et mardi, on a déjà rencontré plus de 300 élèves avec le parrain régional de la Fête de la Science, Nicolas Plain, qui est explorateur scientifique, dont tous les élèves croyaient qu'il était venu en parapente, mais non, il n'y avait pas de soleil. Et donc, on les a rencontrés. Au préalable, ils avaient vu un documentaire primé au Green Award donc, qui s'appelle « Il faut sauver les Alpes ». Et donc, Nicolas leur a expliqué concrètement ce que pouvait être le réchauffement climatique et notamment la différence entre réchauffement et dérèglement climatique. Voilà, et puis il y a encore d'autres. Et puis toute cette semaine jusqu'à mardi prochain, on accueille aussi au Clévaux, je crois qu'on en a de Gérard Gault aussi, qui viennent visiter, donc qui font la visite expérience qui est encadrée par mes collègues médiatrices, donc sur Astronautes l'Expo. Donc en fait, cette année, toute cette fête de la science, elle développe à la fois les sciences, elle fait un focus sur les sciences spatiales et sur les sciences de l'environnement prioritairement, mais on retrouve aussi des sciences exactes dans certaines interventions, de la chimie, des mathématiques et de la physique. Voilà.
Alors là, je me retournais vers... Merci Delphine, mais mesdames, quand on propose des interventions de cette nature aux jeunes, aux collégiens, est-ce que vous avez, puisque vous avez le recul un petit peu quand même, de par votre expérience, est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait vraiment un changement, que c'était extrêmement pertinent pour les jeunes d'avoir ces rencontres avec des professionnels, notamment, là, en l'occurrence, et ça permettait d'avoir des déclics, parfois.
Alors, c'est vrai que les enfants, souvent, on dit qu'on n'est pas très bon en maths et dans les sciences en France, et on se rend compte que lorsque les enfants... qui au départ partent avec l'idée qu'ils ne sont pas bons et touchent aux mathématiques, mais de façon pratique, ils s'étonnent eux-mêmes, finalement, de voir qu'ils y arrivent. Ouais. Et ça peut être un vrai déclic pour ces enfants, de voir que, finalement, c'est aussi pour eux. Et l'abstraction, elle n'est pas pour tout le monde. Donc, arriver par ce biais à toucher les enfants et les amener vers les sciences, ça me semble essentiel.
Alors, vous savez qu'on a déjà eu une expérience ici au collège avec un projet qui avait été fait sur le niveau 5e. Il y avait des 5e collèges, des 5e SECPA qui étaient sur les inondations, les risques d'inondation.
Il y a deux ans,
et on avait déjà travaillé avec un représentant de l'Université de Grenoble, avec des ingénieurs. Donc, et on s'était aperçu que des élèves qui sont en difficulté, c'est-à-dire dans l'abstrait, au contraire, lorsqu'on touchait à des choses plus concrètes, où on leur permettait de mettre en valeur des capacités qu'ils n'ont pas forcément dans le cadre classe, se révélaient être de très bons élèves.
Mais oui, parce qu'effectivement, c'est une autre manière, d'abord une manière plus ludique et puis plus concrète de leur faire aborder les choses. Et puis c'est intéressant de se rendre compte aussi que les capacités, on les a simplement parfois, elles n'ont pas été révélées parce qu'elles n'ont pas, on n'a simplement pas montré de la bonne manière, enfin de la bonne manière, je ne dis pas que les enseignants montrent de la mauvaise manière, mais que chacun, on a un cerveau fait différemment et que parfois, c'est bien d'arriver par d'autres chemins.
Et là, il est très intéressant de voir que ce sont des élèves de SECPA. Alors, non pas que... Mais souvent, lorsqu'on invoque le mot SECPA, pour le public, ce sont des classes en grande difficulté. Et là, ils vont nous démontrer qu'ils sont certes en difficulté abstraite, mais sur le terrain, ils sont là.
Oui. Alors, SECPA, juste parce que tout le monde ne sait pas, les acronymes, c'est terrifiant, c'est la mort du vocabulaire. SECPA, c'est la section enseignement général et professionnel adapté, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Et donc, effectivement, des enfants qui, a priori, sont plus en difficulté sur certains domaines et sur certains apprentissages, mais qui vont se révéler. Alors, vous les entendrez tout à l'heure, on aura le plaisir d'en entendre quelques-uns. Merci beaucoup, mesdames, de ce lancement. On va faire une petite respiration musicale avant de retrouver justement l'enseignant-chercheur et les élèves, et puis dérouler un petit peu le fil de ce direct.
Merci.
Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci.
Well, the words of an old blues man, they're always in time with his soul. Though his face be cracked and worn like age-old summer soil, you know he gave you his hand so you would lift him off that ground. But no one wants a hand that's rough to touch from it, it's been carrying around. And every man wants more than he ever did before. He's still got no way out, we've got no way out, no way out, we've got no way out of this. Well, he walks through town like a Bible prophet, knows he owns it all, but sometimes he doesn't bother. No, sometimes he doesn't bother. Lord, well, he knows the dark hearts of men and he's been there before. Yeah, he won't go there again. No, yeah, he won't go there again. For every man wants more than he ever did before. He's still got no way out, we've got no way out. No way out, we've got no way out of this. So if my eyes turn black and my teeth fall out or my hair's caught up in rags, don't give me none of that medicine, 'cause I'll spit it right back out. To fit in, but he never really got a chance. Before he spoke, they burnt him, cut him, roped him out, and finally put him in the ground. He said, I've been through war, and I've been through law, and I've climbed that hill so cold. Yeah, I've been through more than you'd ever know. Still, they never let me go.
and every man wants more than he ever did before. We still got no way out, we've got no way out, no way out, we've got no way out of this. So if my eyes turn black and my teeth fall out, or my hair's caught up in rags, don't give me none of that medicine, 'cause I'll spit it right back out. Oh yeah, I will spit it right, I will spit it right, I will spit it right back out. I will spit it right, I will spit it right, I will spit it right back out.
Mido Hidoma, je t'aime. Je t'aime. C'est difficile de marcher. C'est difficile de marcher sur un fil. C'est difficile de marcher. De vide entre deux vies.
C'est difficile.
Maman, souvent je pense à toi.
C'est difficile.
Je fais quelque chose sans toi.
C'est difficile.
C'est difficile. J'ai fait quelque chose sans ton accord.
C'est difficile. C'est difficile.
Je suis parti sans te dire au revoir. Maman, tu me manques énormément. Maman, tu me manques énormément.
C'est difficile. C'est difficile.
Ça fait 3 ans maintenant. Maman, souvent je pense à toi.
C'est difficile,
maman, c'est difficile.
C'est difficile,
maman, c'est difficile. J'espère bientôt on se verra. Ainsi que les petits frères.
C'est difficile,
maman, c'est difficile. Midohidoma, bimbi, pekikil, midola, midomijo, fimala, duawata, wonde, sangmala, midowoni, bindema, midowo iti, konosakfa, hara midobindema, nene. Midohidoma, je t'aime. Je t'aime. Nene, Midohidoma, je t'aime. Pour toujours. Je t'abandonnerai jamais. Un jour, maman, je reviendrai. Je reviendrai à tes lumières.
C'est difficile. C'est difficile.
C'est difficile. On est là à cause de, sous l'ombre de Emmaüs. C'est difficile.
C'est difficile. C'est difficile.
Tout le monde, beaucoup d'ethnies, de tant de pays. C'est difficile. C'est difficile. On est fier d'être des Français, des Guinéens, des Soudanais, des Afghans, des Sénégalais. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile.
Nous sommes, vous écoutez Radio BLV 93.6, nous sommes toujours donc au collège Gérard Gaud à Bourg-lès-Valence, en direct du CDI. D'ailleurs, on en profite pour saluer Valérie Piguet, qui est la responsable du CDI, qui nous accueille dans son espace. On finira l'émission avec elle, avec quelques conseils lecture d'ailleurs. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, bien maintenant, On a le plaisir d'accueillir Serge Krivoboc, docteur en pharmacie, enseignant-chercheur à l'Université de pharmacie de Grenoble et directeur du jardin pédagogique Dominique Villard entre autres, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que je me trompe ?
Non, non, absolument pas. Et j'accorde d'autres casquettes, mais bon,
voilà.
On va rester là.
Oui, parce qu'on pourrait faire, toute l'heure dessus, c'est peut-être pas indispensable.
C'est pas le but.
Alors, Serge Krivoboc, eh bien, vous êtes là, on l'a présenté un petit peu tout à l'heure avec Delphine, Madame Morales et Madame Dalmoline. Dans le cadre de l'opération Les collégiens mettent la main à la pâte, et vous êtes donc vous avez proposé à ces 6e et 5e un atelier un petit peu particulier, puisqu'il s'agissait de se mettre dans la peau d'un pharmacien, et c'est une espèce de jeu de rôle que vous avez proposé.
Oui, ça permet de voir la pluralité aussi du métier de pharmacien. Donc là, ils avaient travaillé sur la menthe poivrée et l'huile essentielle de menthe poivrée. Ils avaient pour but, comme tout pharmacien doit le faire, de contrôler donc les feuilles de menthe poivrée, de contrôler ensuite la composition de l'huile essentielle, et également, pour un peu leur donner des bases de botanique, de vérifier si la menthe poivrée fait bien partie de cette fameuse famille de grandes plantes médicinales qu'on trouve, à savoir, c'est des grands mots, ce sont tout à fait les botanistes dans toute leur beauté, à savoir la famille des lamiacées, la famille du romarin, des menthes, des lavandes, du thym.
Alors, parce qu'effectivement, on va jouer un petit peu, on va quand même découvrir un petit peu qui est Serge Krivoboc aussi, et qu'est-ce que c'est que la botanique aussi, puisque vous venez de parler de botanique. On parle de pharmacie, on parle de botanique, on parle de plantes médicinales. Non, on n'est pas au Moyen-Âge, on est bien en 2020.
Heureusement.
Heureusement, effectivement. Qu'est-ce que c'est que les plantes médicinales aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la botanique aujourd'hui ? Et quels sont les services qu'elle peut nous rendre ?
Alors déjà, la botanique, c'est l'étude donc, du monde végétal, très large, hein, bien entendu. Et au sein du monde végétal, nous avons de nombreuses plantes médicinales qui, par leur composition, permettent de réaliser des soins. Et il faut bien savoir qu'en moyenne, on a 60 à 70% des médicaments actuellement en France qui sont issus de plantes ou par extraction de molécules végétales qui proviennent de ces plantes. Donc c'est quand même pas rien. De plus, il y a un retour à la nature depuis plus d'une décennie. Les gens reviennent à la phytothérapie, à l'aromathérapie, ce qui est important pour nous en tant que pharmaciens. Tout ce contrôle et ces avertissements, parce que ce n'est pas bénin que l'usage de ces plantes, en fonction de l'état physiologique du patient, en fonction également de certaines de ces maladies. Les huiles essentielles, par exemple, ne peuvent pas être utilisées sur une personne qui est épileptique. C'est absolument contre-indiqué. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai parlé avec les enfants, tout à l'heure les collégiens, sur la menthe poivrée. La menthe poivrée en usage oral et encore dilué, c'est à partir de 8 ans. Mmh. L'usage en cutané, par exemple pour soigner des piqûres ou pour des maux de tête, mais pas n'importe quelle migraine en plus, vous voyez qu'il faut quand même avoir des connaissances professionnelles dans le médical. En usage cutané, c'est pas avant 4 ans. Donc vous voyez, on doit faire attention, et cette prévention a étonné positivement les jeunes.
C'est important de rappeler qu'effectivement, les huiles essentielles, si on les utilise, c'est parce qu'elles ont effectivement des vertus, mais que justement parce qu'elles ont des vertus, elles ont aussi on peut encourir des risques à les utiliser de n'importe quelle manière. Ça peut être contre-productif. Comment on fait pour devenir chercheur ? Comment on fait pour devenir docteur en pharmacie et enseignant-chercheur ?
La passion. La passion, je pense que quand on aime son métier, c'est la passion. En fait, dès que j'étais jeune, j'étais tout le temps dehors, dans les champs, dans les forêts. Des fois, me perdre un peu. Mais j'aimais ramasser les champignons. J'ai failli intoxiquer ma famille. Depuis, je m'y connais, puisque je suis agrégé en mycologie. Vous voyez, on apprend tout le temps. Et le monde des plantes est merveilleux. C'est un monde poétique. Et c'est merveilleux. Moi, j'enseigne dehors avec les jeunes dans le parc. les oiseaux chantent, le ciel est beau, et les plantes sont là. C'est difficile des fois d'avoir l'attention. Alors oui, c'est la passion. C'est passion et surtout le désir de être au service des autres. Pour les soigner, conseiller, être à leur écoute. Et ça a toujours été mon objectif premier. J'explique pourquoi je suis aussi médiateur et accompagner les personnes en souffrance et aussi envoyer sur des lieux de crise et de crise au sein d'un service, par exemple, universitaire, mm-hmm. ou entre personnes, pour rétablir, retrouver des liens normaux entre les gens lorsqu'il y a des problèmes. Donc, toujours ce but de pouvoir aider autrui.
Alors, quand on demande d'où ça vient et qu'on répond passion, moi je trouve ça génial, bravo.
Merci.
Et je me tourne parce qu'on a la chance d'avoir une partie des élèves qui étaient là ce matin. Est-ce que vous, du coup, est-ce que vous pensiez qu'on pouvait devenir scientifique simplement par passion? Enfin, simplement. Oui. Alors, on n'a pas le. Ah oui, le micro est là. On peut peut-être leur faire passer. Parce qu'on vous a pas, on vous a pas entendu.
Oui, on peut devenir. Enfin, c'est une passion. On peut devenir médecin.
C'est vrai que c'est une belle passion et qu'il faut mettre tout son cœur. Et que les gens qui font ce travail, ils ont un corps d'or.
Merci.
J'ai pas d'autres mots.
C'est une très jolie manière de dire. Ben, c'est vrai que passion et être au service des autres, parce que quand on imagine des scientifiques, on a un peu l'image d'Épinal, du scientifique qui est dans son laboratoire, qui cherche, etc., qui est un peu tout seul finalement. Et est-ce que être au service des autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous, enfin pour vous, ça paraît logique?
Oui.
Oui.
Oui, ça me paraît. Oui, c'est logique, parce que grâce à lui, maintenant, j'aimerais bien faire ce boulot-là pour aider les gens.
Super.
Merveilleux.
Ben, bravo en tous les cas.
C'est le but aussi dans ces échanges et depuis 3 ans que donc je 4 ans maintenant que je participe en tant que scientifique au sein des maisons pour la science, hein, donc Dauphiné. Et de pouvoir transmettre, de pouvoir s'adapter aux jeunes et leur faire passer ce message, hein, différentes professions, d'être observateur, d'être discipliné, de tenir compte de documents officiels pour pouvoir contrôler un médicament, par exemple, comme ici on a fait avec l'huile essentielle de menthe, poivrée. Donc on voit qu'il y a toute une démarche qui demande d'être structuré, qui demande de se poser. Et j'ai essayé de passer ça aussi, ce message aux jeunes, c'est tout se fait avec calme. Ce n'est pas toujours facile dans notre monde où tout va très vite, mais tout va très vite pour aller où? On va se poser la question. Ça y est. Mais toutes les sciences amènent aussi à la philosophie, c'est-à-dire l'étude de la sagesse, hein, bien sûr.
Mais effectivement, se poser, apprendre à suivre un protocole, apprendre à suivre un cheminement aussi, parce que c'est ce que vous leur avez proposé tout à l'heure quand on a démarré. Je parlais d'enquête presque. Enfin, c'est presque un jeu de rôle.
Oui, oui.
Et c'est presque une enquête. Donc, ça veut dire apprendre aussi à avoir une pensée structurée et de quelque chose qui se déroule.
Une démarche logique qui avance pas à pas. Donc, avec une logique scientifique, et on ne peut pas brûler certaines étapes. Donc ça, c'est important.
Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, le fait d'être obligé de vous poser, de vous calmer, enfin d'être au calme et d'avoir vraiment, de prendre ce temps? Est-ce que vous l'avez ressenti ce matin? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de prendre votre temps, justement, de vous poser pour faire les choses?
Non, j'ai pas trop. Non, j'ai pas trop l'habitude de prendre mon temps comme ça, mais j'ai bien aimé l'expérience.
Justement, de se poser, de se dire, on fait les choses les unes après les autres. Et,
Oui.
Il y a un ou une autre qui veut prendre la parole?
Moi, souvent, je me pose, mais là, c'est la première fois que je me suis autant posée en classe, parce que d'habitude, c'est un petit peu bruyant. Mm-hmm.
Ils ont été calmes, c'est très appréciable.
Super.
Moi, j'ai pas l'habitude de me poser.
si je fais mes devoirs, j'ai pas l'habitude de me poser. Ah oui. Je fais un peu à la rapide. Ouais. Mais qu'alors avec ça, bah, j'ai bien pris mon temps.
Et t'as trouvé ça intéressant du coup ?
Oui.
Tu t'es rendu compte que ça apportait quelque chose ?
Oui.
Super, bah ça c'est donc Paris réussi, on pourrait dire. Hein.
Alors... Ça m'encourage encore de continuer.
Ah pardon, tu voulais rajouter quelque chose ?
C'est bien de faire ce travail, il faut juste à l'écouter, bien travailler.
Très bien.
L'écoute est importante, oui.
L'écoute, ça aussi. Alors, comment on élabore un atelier justement pour des collégiens ?
Alors, je suis parti d'un atelier de mes étudiants en deuxième année de pharmacie. Où je les mets déjà, vous voyez, c'est ce que je fais avec mes étudiants en deuxième année de pharmacie. Hein, je les mets, avec moi, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Ils ont les documents comme s'ils sont pharmaciens, même si c'est dans 4 ans ou 5 ans qu'ils sortiront pharmaciens. Mais déjà, les mettre dans cette démarche de rigueur, cette démarche de contrôle que doit avoir le pharmacien. Et c'est la même méthodologie que j'ai adaptée avec les enfants. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de regarder au microscope les poils sécréteurs d'huile qui, bien sûr, après hydrodistillation, donne l'huile essentielle de menthe poivrée, mais d'observer. Alors, tout était prêt pour eux. Bien sûr, on adapte. Uh-huh. Et heureusement, j'étais entouré de plusieurs enseignants et d'aides enseignants pour... C'était 3 ou 4 par moment, parce qu'il y avait quand même 3 ateliers... avec 3 groupes par atelier, donc vous voyez, ça oui, fait comme du monde.
Oui, ça fait du monde quand même. Et alors, les ateliers, c'est quoi exactement ?
Donc, il y avait un atelier sur la reconnaissance de la famille des Lamiacées, dont fait partie la menthe poivrée. Ensuite, il y a un autre atelier, vous avez les feuilles de menthe poivrée telles qu'on les reçoit séchées de la coopérative pharmaceutique. Mm-hmm. Et avant de faire l'hydrodistillation pour avoir l'huile essentielle de menthe poivrée, on a une obligation, même si c'est marqué sur... le paquet qui sont des feuilles de menthe poivrée, je ne dois pas en rester là, je dois de nouveau contrôler.
D'accord.
Et donc, ils avaient à contrôler visuellement et ensuite au microscope, ça a été mis en poudre et au microscope, chercher les poils sécréteurs. Donc ça, c'était déjà préparé pour que ça soit plus facile pour eux. Mmh. Il y avait un autre groupe qui était sur, c'est le troisième groupe et le dernier, à savoir, on déposait sur des plaques, on appelle les plaques de couche mince, de l'huile essentielle diluée et des témoins. Et on faisait dans une cuve migrée par un solvant liquide afin de séparer les substances. Ils ont été surpris, les collégiens, je suis habitué à dire étudiants, les collégiens, mais ils vont être bientôt étudiants, les collégiens, sur la plaque, à l'œil nu, on ne voyait rien. Uh-huh. Mais sous ultraviolet, déjà, 2 premières taches apparaissaient. Et les mêmes que celles qu'on trouve au niveau des témoins. Et ensuite, on a trempé ça dans une solution violette de permanganate de potassium, désolé pour les détails. Et là, en séchant la plaque, les taches sont devenues jaunes et d'autres taches ont apparu. Donc après, ils avaient à déduire si c'était bien. On savait qu'avec ce colorant violet, les alcools comme le menthol, le xylitol, qui était présent dans l'huile essentielle de menthe poivrée, étaient bien présents lors de mon contrôle de qualité de mon huile essentielle. Donc, ils ont pu le voir, on a pu faire un bilan ensemble. Et donc, ça, vous voyez, le pharmacien, ce n'est pas le vendeur de petites boîtes.
Oui.
Vous avez vu tout de suite que la priorité pour nous, c'est la sécurisation sanitaire du patient. De sécuriser lorsqu'on le soigne et de vérifier que le médicament qu'on lui donne, il est conforme à un cahier des charges et qu'il n'y a pas de risque. Et si, bien sûr, avant de donner une huile essentielle, on pose quelques questions au comptoir, à l'officine, pour s'assurer pourquoi vous l'utilisez et est-ce que c'est possible selon la personne à qui on veut donner cette huile essentielle. Vous voyez, on est là pour sécuriser le patient et on n'est pas des petits commerçants, vendeurs de petites boîtes. D'accord, c'est-à-dire, ça y est, le docteur Krivoboc, membre du Conseil de l'Ordre, il est en train de faire de la pub. Non, mais c'est important.
Non, mais je suis sûr qu'ils ne regarderont plus leur pharmacien ou leur pharmacienne de la même manière, ça c'est certain.
C'est important, on a vraiment un rôle de cadre de santé.
Juste on revient sur le quand je vous ai présenté aussi comme directeur du jardin pédagogique Dominique Villard. Oui. Alors quelques mots sur ce jardin.
Alors
on reste dans la botanique.
C'est ça qui est merveilleux. C'est merveilleux. Alors en fait Dominique Villard est un médecin botaniste de la surtout en fait fin 18e siècle qui est décédé en 1814, lorsqu'il était doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, il était à Grenoble. Donc il était et médecin et botaniste. Il a commencé, il avait une dizaine d'années quand il a commencé à botaniser. C'est extraordinaire. Et donc, il a même fait la flore de Dauphiné, hein, en 3 volumes, qui est sorti au moment de la Révolution française. Et donc, c'était dans le parc où se trouve la fac de médecine pharmacie actuellement que se trouvait son jardin, le jardin botanique, pour former les médecins et les pharmaciens, les apothicaires. Et donc, bon, avec la Révolution et tout ce qui s'est passé, ce jardin a dû être partir en 1792. Et en fait, lors du bicentenaire du décès de Dominique Villard, il y a une grande exposition au musée de l'hôpital de Grenoble. Et c'est l'année où j'ai créé aussi ce jardin botanique, parce que j'en avais un petit peu marre d'aller ramasser dans la nature les plantes, les mettre au frigo, hein, dans de l'eau. J'ai préféré qu'on ait des bacs dans le parc.
Et qu'on puisse...
Alors, on est un des seuls jardins botaniques où les plantes sont classées, non pas par le classement botanique, mais classés selon leurs propriétés thérapeutiques. Ah. Donc on a les bacs pour tout ce qui est cardio-veineux, les bacs pour l'ORL, les bacs pour les troubles de la peau et des fanères, les bacs pour les troubles féminins, pour les troubles du sommeil, les bacs pour les problèmes de digestion ou les problèmes hépatobiliaires. Voilà. On a même, on a aussi un jardin de plantes médicinales, donc selon la théorie des quatre humeurs, qui est un jardin médiéval, tout en vieux français en plus. Donc on a prévu aussi d'autres bacs dans les années à venir pour tout ce qui est des problèmes de articulaires, même un bac de plantes magiques. Hein, donc voilà. Et on va développer et on a aussi un carré de potager de plantes alimentaires et médicinales qui sont les deux à la fois. Donc le but c'est que les étudiants comme ça à tout moment ils peuvent réviser en se promenant dans le parc.
Ça, c'est une belle manière de réviser. Et est-ce qu'il est ouvert à l'extérieur?
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut visiter ce jardin?
Il est ouvert, tout le temps ouvert. Il y a, en plus des visites guidées que nous faisons, bien sûr, la bonne saison, lorsque les conditions Covid le permettront, également, malheureusement. Oui. Et il y a une formation continue pour les enseignants du secondaire sur les plantes médicinales.
D'accord.
Qui a lieu en deux journées, au printemps. Et c'est une des formations les plus demandées actuellement sur les plantes médicinales. Et là aussi, c'est adapté aux enseignants du secondaire de revoir les bases de botanique et de pouvoir pédagogiquement transmettre aussi l'usage des plantes médicinales auprès des écoles.
Alors, il me semble, on sort un petit peu du cadre du collège, mais je crois que le terme herboriste n'est plus accepté, c'est
oui,
ça, enfin, n'est plus autorisé.
En tout cas, le diplôme donc, sous le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les pharmaciens en fait, qui ont fait pression pour que le métier d'herboriste n'existe plus. Alors, petite anecdote historique, le grand Charles, comme on dit, hein, donc, a confirmé cela sans passer par l'Assemblée nationale donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, maintenant, on se trouve un peu embêté.
Oui. Hein.
Donc, en fait, c'est le pharmacien qui s'est tiré une balle dans le pied. Donc, il y avait une étude, un rapport du Sénat à ce sujet, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Parce que, bien sûr, dans d'autres pays européens, il y a des herboristes qui peuvent s'installer en France s'ils parlent français.
D'accord.
Voilà,
un non-sens, effectivement.
Voilà. Alors, bien sûr, il y a des diplômes universitaires de phytothérapie, d'aromathérapie clinique, comme il y a ici à Grenoble, dans notre faculté, hein, donc pour former les médecins, pharmaciens, infirmiers, dentaires, qui veulent utiliser l'huile essentielle ou les plantes médicinales. Il y a différentes formations. Et puis nos jeunes aussi, étudiants, sont formés, quand même, ont des bases de phytothérapie, d'aromathérapie.
Bien sûr. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on reprendra tout de suite après. Je laisse à Karina le soin de lancer les choses. Sets over water, show you how to dream.
Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho.